projection privée. Bonjour, cette émission est consacrée à Jean-Luc Godard à l'occasion de la sortie de 4 ouvrages, tous complémentaires et tout à fait intéressants. D'abord celui de Zoé Bruno, En attendant Godard, chapitre 1, chapitre 2, chez Maurice Nadeau, qui concerne le dernier film de Godard où elle a joué le rôle principal, donc Adieu au langage. Chantal Pelletier, romancière bien connue, qui a publié, commencé par écrire des romans policiers, puis ensuite beaucoup de livres, en particulier aux éditions Joël Losfeld, où elle fait paraître Et elle croyait en Jean-Luc Godard, un roman dont les héroïnes parcourent les décennies, mais toujours avec... pas toujours avec la même intensité, mais un rapport privilégié avec les films de Jean-Luc Godard. Anne Wiesemski, évidemment, le livre dont on a déjà beaucoup parlé, il le mérite un an après, chez Gallimard, qui concerne son mariage avec Jean-Luc Godard. Elle avait déjà, c'est son troisième livre, elle a publié Jeune fille, je parle de troisième livre, vous avez écrit beaucoup plus que trois livres, mais trois livres autobiographiques. Jeune fille, en 2007, c'était l'expérience de Robert Bresson sur Au hasard Balthazar, où Godard, vous avez remarqué, une année studieuse en 2012, vous parliez de votre mariage avec Jean-Luc Godard, et enfin un an après, c'est-à-dire les événements de mai 68. Et enfin, Olivier Séguret, qui fut pendant 30 ans une des grandes plumes des pages cinéma de Libération, pour son livre Godard vif, qui paraîtra lui le 8 avril, les autres sont déjà disponibles chez G3J Éditeur. Et Olivier Séguret, au fond, raconte son rapport avec Jean-Luc Godard, car il croyait, et il croit encore, en Jean-Luc Godard. Alors, Anne Wiesemski, j'ai envie de vous poser la première question. C'est le titre de votre, le sous-titre de votre ouvrage, Roman. Parce que ce que j'admire dans vos livres, c'est la précision de vos souvenirs, l'évocation des rencontres que vous avez faites, le portrait de grands cinéastes comme Bresson ou Godard. Pourquoi roman ?
Oui, vaste question. Je dois dire que j'avais décidé, lors du précédent livre, d'arrêter de discuter de là-dessus, parce que ça me barbe un peu, et de dire qu'en fait, le roman, récit, c'est ce que souhaite le lecteur. Moi, je sais tout ce qui est faux, et là, beaucoup de choses sont, si ce n'est fausses, reconstituées. La mémoire, de toute façon, est infidèle. Et sauf pour tout ce qui est historique, où j'ai consulté là vraiment les documents pour suivre au jour le jour ce mois de mai, le reste, beaucoup, ce sont des rêveries, des approximations. Mais, si vous voulez, j'avais appliqué cette phrase de François Truffaut dans une interview à propos de la nuit américaine. Il dit, je ne dis pas toute la vérité, mais des choses vraies. Donc, même si c'est par le biais de la fiction, excusez-moi, j'ai une bouchée, j'ai un rhume, néanmoins, je ne crois pas trahir les personnes dont je parle.
Alors, Olivier Séguret, justement, Godard, dans votre livre, parle d'une biographie qui vient de paraître, on évitera de citer les noms, mais d'une biographie qui vient de paraître, il dit « tout est faux », alors cette biographie devrait s'appeler, justement, « roman », et votre livre s'appelait, je ne sais pas, moi j'aurais dit « récit », c'est un très beau récit, où vous montrez Godard dans sa... dans sa complexité humaine, c'est-à-dire on passe chez vous de quelqu'un qui peut être tendre, espiègle, généreux, et puis quelqu'un qui peut être au contraire violent, agressif, imprévisible.
Oui, mais c'est le propre des êtres humains intéressants.
Alors, Olivier Séguret, votre livre est tout de même sur, effectivement, comme je le disais en préface, c'est sur 30 ans, vous l'avez rencontré une dizaine de fois, vous avez fait des entretiens. Comment avez-vous vu cet homme très controversé ?
J'ai mis du temps, moi, à prendre du recul, déjà, sur moi-même, sur mon métier, sur les choses que j'avais vécues. Je les ai vécues d'une forme... d'insouciance, puisque j'ai commencé à travailler très jeune à Libération. Je dirais, pas par accident, mais un peu par les hasards de la vie. J'étais encore étudiant, j'avais aucun projet de devenir critique. Donc, voilà, c'est dans ce tourbillon-là que Godard, qui évidemment, en tant que cinéphile, comptait déjà pour moi, a commencé à apparaître un petit peu dans mon paysage personnel, quoi. Et comme vous vous en doutez, c'est surtout passé à travers la figure de Danet au départ, qui le fréquentait un petit peu et pour lequel Godard comptait énormément. Alors, je ne sais pas si c'est une... Je dirais pas une coïncidence, mais c'est certain que quand on s'attelle à un livre sur Godard, je pense que Zoé pourrait dire la même chose. Enfin, les catégories habituelles perdent beaucoup de leur pertinence, et que le côté roman ou, dans mon cas, récit. Mais c'est vrai que moi, il y a un de mes premiers lecteurs comme ça dans mon entourage qui m'a dit, mais c'est un roman. Enfin, voilà. Les termes roman ou récit permettent, voilà, disons, de d'appréhender la sphère gigantesque Godard, disons, dans une diversité d'emblée, parce que roman, récit, c'est suffisamment large, vaste, généreux pour accueillir beaucoup de choses.
Alors, Olivier Séguret, évidemment, vous êtes allé à Rolles sur le tournage de Adieu au langage, et ce tournage est évoqué donc par Zoé Bruno, qui parle de vous. D'ailleurs, vous êtes quelqu'un de discret, dit-elle, sur le tableau, ce qui est bien. Et en même temps, vous dites aussi on n'apprend pas grand-chose sur un tournage.
Oui, je ne sais pas si vous l'avez vérifié au cours de votre carrière, mais bon, moi j'ai fait beaucoup de reportages sur des tournages. On apprend des choses sur un tournage, mais on apprend très peu sur le film qui est en train de se faire. C'est ça que je veux dire. On a une très vague idée du film qui est en train de se faire quand on passe 1, 2, 3, 4 jours sur un tournage qu'on vient de l'extérieur.
Mais quand on travaille avec Jean-Luc Godard, on a une très vague idée aussi du film qui va en résulter, quoi. Enfin, pour ma part, avec cette expérience-là.
Mais justement, alors, dans votre livre, en fait, il y a une sorte de prologue, et puis le livre se passe sur... Il y a 10 ans plus tard. C'est-à-dire, vous avez une première rencontre avec Godard pour un film qui, finalement...
Il n'a pas fait
avec vous. Et ensuite, une deuxième rencontre 10 ans plus tard, mais il n'y a pas de résultat. Et puis finalement, on vous rappelle, on vous dit, voilà, vous êtes dans le film de Godard. Et ensuite, donc, vous partez à Rolles. Et effectivement, vous dites que Godard ne vous donne pas très peu d'indications.
Très peu. Très peu d'indications sur les personnages et sur ce qu'on doit incarner et sur ce qu'il veut raconter. Mais par contre, énormément d'indications techniques, beaucoup, beaucoup d'indications sur le rythme, sur la voix, sur la façon de parler, de marcher. Donc c'est très riche, mais c'est pas du tout psychologique comme indication.
Ça commence par des questions très intimes. Il demande si vous avez des poils, est-ce que vous pourriez vous mettre une postiche, est-ce que vous vous épilez. Enfin, on est tout de même très, très surpris par cette rencontre que vous avez avec lui.
Mais c'était fait avec... je n'ai ressenti aucune malveillance ou aucune perversité dans cette question. C'était vraiment dans le but d'un travail en commun, et son intérêt, c'était de montrer des corps. Donc si mon corps n'avait pas été à l'image de ce qu'il attendait, forcément on n'aurait pas pu travailler ensemble. Donc les questions étaient très très saines, finalement. Mais c'est vrai que c'était de l'ordre de l'intime. Oui.
Cette scène-là dans votre livre, ça m'a vraiment fait penser... aux séances de nu aux Beaux-Arts, où on cherche un modèle qui corresponde à quelque chose de précis. Bon, voilà, il a des poils, il n'a pas de poils. Enfin, voilà, on ne travaille pas de la même façon. Ça fait partie du projet.
C'est jamais dans le jugement, ou c'est jamais. Il ne va pas remettre en question mon corps ou mon esthétique, mais il va chercher un personnage qui corresponde exactement à ce qu'il a envie de voir à l'écran, parce que je pense qu'il a une idée extrêmement précise de ce qu'il veut avoir comme résultat. Donc, voilà.
Mais dans le livre de Olivier Séguret, il dit que finalement, je crois qu'il n'a pas envie de se disputer. Il a beaucoup changé par rapport à sa jeunesse, que évidemment vous n'avez pas connue, mais où il peut être violent, Anne Jasinski.
Mais moi, je ne l'ai pas connu non plus. Je suis très intéressée par ce que vous dites. Je ne l'ai pas connu du tout violent, mais l'équipe de la Chinoise disait que c'était la première fois qu'il le voyait aussi aimable et de bonne humeur.
Vous avez eu une fonction adoucissante, peut-être. Dans un restaurant, il agresse...
Ah oui, ça, c'est hors plateau, ça.
Oui,
Dans la vie quotidienne, oui, t'es capable de ce genre. Mais là, je croyais qu'on parlait de
tournage. Non, mais il dit en général qu'il est apaisé. finalement. C'est un vous l'avez vu comme cela, quelqu'un qui n'ose pas le ton. Qui...
Non, pas du tout. On a discuté de ça, je ne sais plus à quelle occasion, peut-être pendant une coupure déjeuner. Et il disait qu'il était fatigué de se disputer, et puis qu'il s'était rendu compte qu'il pouvait obtenir les choses en parlant tout à fait normalement aussi. Et que peut-être il avait acquis cette légitimité, qu'on ne remette pas en question ce qu'il désirait. Et du coup, la colère avait plus lieu d'être dans ses rapports professionnels pour obtenir ce qu'il voulait au cinéma. Après, la colère, elle a peut-être toujours lieu d'être dans son intimité, je ne sais pas, mais...
Alors Chantal Pelletier, vous écrivez donc un roman, peut-être en partie autobiographique, c'est à vous de me dire, je ne connais pas votre biographie, mais en tout cas, avec une héroïne qui découvre à 15 ans à bout de souffle, donc à sa sortie, et que vous allez suivre...
Pas tout à fait, non, dans un ciné-club de
maison de jeunes. Un peu après la sortie.
Justement dans des conditions assez déplorables, parce que c'est un écran qu'on a déplié sur des chaises en formica, c'est un chantier de maison de jeunes, donc c'est pas vraiment un cinéma, un grand écran, etc. C'est dans de très mauvaises conditions.
Donc, elle a un peu plus de 15 ans. Je pense que Anne Wiazemski, quand la Connette Godard aura 17 ans, vous aviez découvert À bout de souffle, à quel âge ?
J'ai découvert À bout de souffle après avoir rencontré Jean-Luc. Quand je l'ai rencontré, je n'avais vu aucun de ses films quand il est venu sur le tournage de Bresson. Parce qu'il y avait quelque chose d'un peu stupide, que j'ai toujours d'ailleurs, qui est qu'il y avait une telle... il fallait être pour ou contre. Donc à ce moment-là, il y a quelque chose d'un peu dédaigneux chez moi qui me détourne. Ce qui fait que j'ai rien vu et le choc est venu quand j'ai vu Pierrot. J'ai découvert par Pierrot le fou et ensuite par masculin-féminin. Et j'ai eu ce sentiment totalement absurde aussi et incompréhensible. Ça m'était adressé. Donc c'est là où j'ai écrit, je l'ai rencontré. Donc j'ai connu l'homme avant les grands films dont vous parlez.
Alors Chantal Pelletier, donc Anne, c'est peut-être un peu vous, je ne sais pas, c'est à vous de le dire, mais elle a des amis, Marie, Claude, et puis plus tard une belle blonde, la sœur de son compagnon. Et donc vous allez la suivre dans ses découvertes progressives. En même temps, vous racontez aussi un demi-siècle, c'est-à-dire que c'est une saga où, dans la deuxième partie, alors prennent plus d'importance les événements, la chute du mur de Berlin, etc., que le rapport à Godard, mais néanmoins, ce rapport à Godard est constitutif. C'est le titre du film. Elle croyait en Jean-Luc Godard. Ça correspond certainement à votre expérience personnelle.
En partie, mais surtout ce qui m'intéressait, bien sûr, il y a des éléments qui sont autobiographiques, notamment dans l'âge du personnage principal, Anne. Mais surtout, le titre « Et elle croyait en Jean-Luc Godard », c'est l'idée de... Il est dit dans le livre, elles vont à la messe, au cinéma, les grandes salles sont leur cathédrale, c'est-à-dire il y a vraiment un rapport religieux avec le cinéma. C'est-à-dire, quand cette chose-là est dite, il ne s'agit pas que des films de Jean-Luc Godard. C'est-à-dire, c'est un cinéma qui n'est pas un cinéma de distraction ou de loisir, c'est un cinéma qui, pour ces adolescentes dans les années 60, est vraiment un cinéma constitutif, fondateur, qui trace un chemin, qui ouvre les fenêtres, qui vraiment fait souffler un vent de liberté. Et c'est vrai que pour Anne, la narratrice, donc c'est vraiment, elle a l'impression que sa vie commence là et tout est pour elle en termes religieux, c'est-à-dire c'est une révélation, elle est touchée par la grâce, c'est un mystère, enfin, etc. Bon, les autres personnages viendront à Godard plus tardivement. Et, un autre personnage est plutôt passionné par le théâtre parce que je pense que aussi une des choses qui les accroche à Jean-Luc Godard, c'est que dans ce moment des années 60, c'est quelqu'un qui a le merveilleux talent de rassembler la littérature, la peinture, le théâtre. Donc il y a à la fois de la poésie, de la sociologie, enfin, etc. Anne parlait tout à l'heure de masculin-féminin. On a l'impression que c'est vraiment un livre ouvert sur l'époque, que si un extraterrestre arrivait, voyait un film de Jean-Luc Godard, il saurait exactement quel est notre monde. Et ça, c'est quand on vient d'un milieu modeste comme la narratrice, c'est un cadeau extraordinaire parce que tout d'un coup, toutes les fenêtres s'ouvrent.
Oui, on voit Louis Et Noël, son père et sa mère, qui effectivement sont alors dans une sorte de conformisme absolu, elle étouffe dans ce milieu, elle veut s'en échapper. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il y a des passerelles entre tous ces livres. C'est-à-dire, par exemple, Olivier Séguret dit que, en fait, il a regardé une émission de Michel Drucker qui disait que sa vie ressemblait à un film de Lelouch, et vous aviez l'impression, au contraire, que votre vie ressemblait à un film de Godard, et dans votre roman, elle rencontre aussi un homme qui, lui, aime vivre pour vivre de Lelouch et avec qui elle ne peut vraiment pas s'entendre.
Bah, ils se séparent pour cette raison-là. Voilà. Parce que ça, c'est vraiment pas possible, oui. Parce que week-end, c'est-à-dire c'est week-end contre vivre pour vivre, et là, donc c'est vraiment, c'est inconciliable.
Et alors, il y a tout de même une chose intéressante, c'est que c'est pas uniforme. Il s'agit pas d'une sorte d'extase de tous vos personnages, parce qu'elles sont pas toujours en accord. Par exemple, le personnage de qui commence Anne finit par commencer à bouder Godard à partir de ses films politiques.
Oui, c'est-à-dire.
Je cite votre roman. Elle boude même les jeux de mots godardiens, s'est éloignée de son idole, emberlificotée dans de baroques discours politiques, cachée derrière des partenaires, groupes et associations. L'idéologie a bouffé l'artiste, la politique fait écran. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que cette période que Anne Wiazemski a en partie connue, puisqu'elle a joué dans Vendeste.
Oui.
Vous avez joué dans Vendeste, qui est un film vraiment en pleine période politique, quand il va en Italie, etc. Cette période, curieusement, est assez occultée dans tous vos livres. Enfin, je ne parle pas du livre de Zoé Bruno, qui est concentré sur Adieu au langage. Mais vous n'en parlez pas beaucoup. C'est-à-dire, vous parlez beaucoup des Rolling Stones.
C'est un choix.
C'est un choix, oui. Alors Absolument. Ça, c'est intéressant que vous nous disiez, parce que vous parlez des Rolling Stones, bien sûr, de La Chinoise, de Weekend, de One Plus One, donc avec les Rolling Stones, mais pas de Vendeste, que vous avez tourné avec Godard. Et puis, il y a la réaction de Anne, votre héroïne, Chantal Petit, et même Olivier Séguret ne parle pas tellement de Pravda, de tous ces films militants.
Non, pas du tout, c'est vrai, mais comment dire, c'est pas du tout... Je ne cherche pas du tout à occulter cette période-là chez Jean-Luc Godard, c'est plutôt dans le récit, en tout cas de mon livre, il y a beaucoup de périodes qui disparaissent. Même la Nouvelle Vague, si vous regardez bien, elle y est à peine. Enfin voilà, c'est surtout pas une monographie. J'ai pas du tout voulu revisiter l'œuvre. C'est pas une exégèse de Godard, pas du tout. C'est vraiment sur quelques aspects.
C'est deux ou trois choses.
Voilà, de la vie de Godard et qui résonne avec la mienne. Un peu voilà, sur le mode de ce que vous disiez tout à l'heure sur l'anecdote de Drucker dont la vie ressemble à un film de Lelouch. Oui, c'est vrai que c'est une question qui m'a fait rire au début, mais que finalement j'ai trouvé amusante à se poser à chacun de soi. S'il fallait choisir, à un film de qui ressemble votre vie. Voilà. Moi, effectivement, je pense que ma vie ressemble plus à un film de Godard qu'autre chose.
Ouais. Anne Wiazemski, vous disiez que c'était un choix de ne pas parler justement de Vendeste, mais on sent tout de même dans votre livre, vous êtes une jeune femme, et vous êtes évidemment, vous admirez beaucoup Godard, mais vous êtes aussi de votre époque, mais cette époque de... Alors, évidemment, vous l'avez dit ailleurs, que mai 68, c'est l'année, en tout cas 68, c'est la plus intense de votre vie, et vous le rendez merveilleusement dans ce livre, de tout ce qui s'est passé dans les rues de Paris, les manifestations. Mais on sent aussi un certain agacement avec le professeur, le donneur de leçons qui est Godard, à cette époque.
Oui,
quand il devient idéologue.
Il le devient après. Le livre s'arrête avant. Il s'arrête week-end du 1er mai 1969. Et à ce moment-là, Jean-Luc n'était justement pas un donneur de leçons. Il était en pleine interrogation, sûrement très douloureuse, sur lui-même, sur où aller et sur que faire. La partie dogmatique, dont j'ai choisi de ne pas parler... Et je n'ai pas à m'en expliquer, c'est comme ça, c'est d'après. Que j'ai essayé de montrer, c'est au contraire que ce que je n'ai pas vu, ce que personne de ses amis n'ont vu, c'est la profonde détresse où il était. Et par exemple, quand des manifestants dans les manifestations lui demandaient, mais que se tournaient vers lui justement, en disant, mais que faut-il penser, que faut-il faire? Il disait, je ne sais pas. Vous voyez, donc c'est juste, c'était ça que j'avais envie de raconter, pas la suite. Et à part ça, j'ai fait une émission avec Danny Cohn-Bendit la semaine dernière, qui était aussi sur le tournage de Vendeste, et on se disait, oulala, qu'est-ce que ça doit être ?
Et d'autre part, par rapport à Chantal cette période-là, un des personnages du roman dit que Anne est injuste avec lui parce que dans cette période-là, il cherche. Et je veux dire, un artiste, ben, il n'a rien de mieux à faire que de chercher. Et c'est vrai que cette décennie, disons, entre la fin des années 60 et la fin des années 70, va démarrer avec les films des années 80, où il y a des merveilles, des très grandes merveilles.
Le film préféré d'Olivier Séguré, sauf qu'il peut la vie.
Oui, bien sûr, je peux comprendre, c'est un très beau film.
Moi aussi, je comprends que ça ait compté à ce point-là pour toi.
Oui, alors après, il y a aussi des histoires de... j'allais dire démographique, enfin voilà, quand Sauf qui peut la vie sort, j'ai 18 ans, ou 17, enfin voilà. Et donc, c'est le premier Godard que je vois en direct, comme ça j'en ai vu avant, à travers surtout mes parents, etc., mais qui sont déjà des choses anciennes, qui font partie, là. Voilà. Et bien sûr, oui, il y a un avant, un après, parce qu'aussi ça rentre dans ma vie à un moment de sensibilité particulière. Bien sûr.
Mais Anne Wierzinski, c'est vrai que dans votre livre, il y a une fragilité dans la personnalité de Godard, quand il y a des phrases terribles, quand il dit « je n'ai plus envie de faire du cinéma »,
oui.
Ou quand il vous dit « à l'inverse de toi, je n'ai jamais eu d'amis ». Ce sont des phrases qui indiquent une certaine solitude et quelqu'un vraiment qui est hésitant, qui ne sait pas exactement où il va. Enfin, c'est ce que vous disiez à l'instant.
Oui, et c'était... Enfin, j'aime pas les gens qui pleurnichent quand la difficulté d'écrire, mais c'était douloureux à revoir parce que j'ai toujours pas compris. Hein, c'est lui, c'est pas moi. Mais ce que j'ai compris, c'est à quel point on ne l'a pas pris assez au sérieux à ce moment-là. Et quand je dis « on », c'est les personnes dont je parle, Rosier, Bambon, Cournot, Truffaut, enfin, c'est nous qui étions supposés être ses plus proches.
On va écouter Jean-Luc Godard, justement, à l'époque de La Chinoise, un extrait d'entretien.
Moi, j'ai voulu, dans ce film, et je pense que je me suis un peu trompé, puisque la réaction des gens que je voulais aider a été au contraire très très défavorable. J'ai voulu montrer dans ce film qu'à mon avis, en tout cas en ce qui concerne le cinéma et en ce qui concerne l'éducation et l'enseignement, ce qui se passe de plus important aujourd'hui est la révolution culturelle en Chine, dont il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas d'équivalent depuis même pas le christianisme, puisque c'est quelque chose d'organisé, de conscient, et que le christianisme était fait par une douzaine de dingues ensemble, qui était une espèce de... Donc, à mon avis, j'ai voulu montrer. Alors, au contraire, il s'est trouvé, et c'est la seule discussion que moi j'aimerais avoir, mais qu'on ne peut pas avoir, puisque moi je suis considéré par soit par les marxistes-léninistes, soit par les soviétiques, au contraire, comme une espèce de doux anarchiste, soit méchant et bête, soit ni méchant ni bête, mais sans importance. Donc on ne peut pas avoir la vraie discussion là-dessus, et à mon avis, c'est la seule intéressante. La seule critique intéressante de ce film comme ça serait une critique sérieuse, une analyse sérieuse, comme ils en font quelquefois dans les cahiers marxistes-léninistes, sur deux ou trois aspects économique ou culturel de certaines choses, critiques qui seraient publiées dans, par exemple, non pas dans les cahiers marxistes-léninistes, mais au contraire dans les cahiers du cinéma, puisqu'il s'agit d'un film. Mais ça, c'est la seule chose qui paraît, que j'essaye depuis deux ou trois mois d'avoir et qu'il est impossible d'avoir.
Voilà, donc, qu'est-ce que vous en pensez, justement, puisque vous, de cette phrase de votre livre, vous dites que Godard, finalement, chez le nouveau Godard des années 70, la politique fait écran, Chantal Pétier. Ça correspondait chez vous à une déception aussi ?
Mais ça correspondait aussi à la fin d'une époque pour les gens qui sont nés comme moi en 1950, c'est-à-dire que 69, enfin août 68, c'est les chars qui rentrent à Prague, etc. C'est vraiment toute la fin d'une époque et on a l'impression que le cinéma de Godard se plonge dans une sorte de chaos idéologique, parce que c'est vrai que quand on entend parler de la révolution culturelle là, et qu'on sait aujourd'hui ce qu'a été les millions de morts de la révolution culturelle en Chine, enfin c'est très très... Enfin, je trouve ça assez douloureux d'entendre ça. c'est-à-dire que tout à coup la politique remplace une vision plus, disons, plus dansante et pas seulement cérébrale du monde, quoi.
Moi, je suis assez d'accord avec ça et je trouve que ça rebondit bien avec ce que vous disiez, en fait, tout à l'heure sur la façon dont votre génération, enfin, a perçu les films de Godard et a pu s'identifier à quelque chose dans tous les premiers films de très extraordinaire, de très neuf et tout ça. Et de se dire, enfin, juste cette chose, enfin, assez simple, mais qui me semble très, très évidente, c'est qu'il a été beaucoup plus révolutionnaire et beaucoup plus subversif dans toute sa première période qu'à partir du moment où la politique vient effectivement faire écran. Oui. Notamment sur le. Enfin, ça a été. Je pense là-dessus, Anne, je sais pas, mais ce qui me frappe beaucoup, c'est le féminisme, par exemple, très spontané de tous les premiers films de Godard, où il y a vraiment quelque chose d'accompagnement des femmes, enfin, qui est très fort. Où je pense que les jeunes femmes de l'époque, si elles voulaient voir des femmes libres, ben, c'était là qu'elles envoyaient. On sent que ce qu'il aime, c'est les femmes libres, quand même, enfin, très fortement. Et. Ça, c'est quelque chose, enfin, de très neuf, de très fort, qui ne disparaît pas dans son œuvre. Mais après, il y a la politique qui vient s'installer comme un discours. Enfin, finalement, les commentaires même de Belmondo, dans À bout de souffle, les commentaires comme ça, quotidiens, sont beaucoup plus politiques et féroces sur la société que ce qui vient après.
Oui, quoi. Bien sûr, parce que c'est absurde, c'est surréaliste, etc. Oui. Et d'autre part, ce qui semble oublié à partir de ce moment-là, mais d'ailleurs, One Plus One est vraiment un moment où on voit le changement parce qu'il y a encore cette énergie, enfin bon, et puis cette magnifique image de Ève Démocratie qui s'envole là sur le bras de la caméra. Enfin, ça, c'est une chose qui m'avait rendue d'une jalousie féroce. Mais on a l'impression que la fête est oubliée. Parce qu'en fait, quand je parlais de religion tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que quand vraiment il y avait cette adoration des films de Godard dans les années 60, c'est-à-dire que c'était drôle, c'est-à-dire qu'on s'amusait, c'est-à-dire qu'on était, c'était vraiment une fête. Et tout d'un coup, et on sent déjà dans One Plus One que le sombre, le dur, le noir...
ce sont les Black Panthers.
Oui, absolument. Mais même la façon dont les Stones sont filmés, chacun on a l'impression dans sa petite cage, etc. On a l'impression que ce qui se passe entre les individus s'évapore et qu'il n'y a plus que des cerveaux qui communiquent. Enfin, bon, il y a... voilà, donc c'est vraiment... Mais en même temps, je crois que ça accompagne aussi le monde tel qu'il va à ce moment-là.
Alors, Anne Jasinski, votre premier film ensemble, c'est La Chinoise, et il s'inspire de vous, de votre expérience de Nanterre, même si vous n'étiez pas maoïste, mais vous lui apportez des documents, vous lui apportez des tracts, etc. Vous avez eu effectivement un de vos copains de fac, c'était Cohn-Bendit, qui n'était pas du tout sur les mêmes positions que Godard, qui n'était pas du tout maoïste.
Du maoïsme, oui. Et un tract de Dany appelant au boycott des examens, qui passait par copier et tout ça. Je sais pas, c'était vraiment l'esprit très poétique et drôle de Jean-Luc, qui était de dire, ça on le prend, ça peut passer pour maoïste. Vraiment, les maoïstes ont tiré des tronches pas possibles quand ils ont entendu le texte.
Mais ce que vous n'étiez pas, enfin, ils étaient à la fois inspirés de votre expérience de Nanterre, etc., mais ce que vous n'étiez pas, c'était justement une idéologue ou quelqu'un, ce que vous êtes dans le film.
Non, pas du tout, et il y a eu un malentendu terrible dans les années qui ont suivi. C'est-à-dire que des gens de mon âge, des étudiants, soit me demander des comptes, soit entamer avec moi des discussions que j'étais incapable de tenir.
Ça vous barbait même.
Ça me barbait, mais complètement. Et avec Juliette Berthaud, de temps en temps, on se disait, tu comprends ce que tu dis, toi? Je disais, mais non, c'était bien moi non plus.
France Culture, projection privée, Michel Simon.
Zoé Bruno, alors le Godard que vous avez connu, tout cela est passé. Godard, d'une certaine façon, revient à ses premières amours, si j'ose dire. Il parle du couple, en fait. Oui. Il y a deux couples dans le film. Et puis, tout de même, un chien dont j'ai appris que vous ne l'avez jamais rencontré pendant tout le tournage, alors qu'il joue un rôle fondamental dans ce rapport avec... si tant est que j'ai pu comprendre le film, qu'il joue un rôle... fondamental avec, avec ce couple.
Bah, c'est le personnage principal du film. C'est,
qui est aussi un chien de Godard.
Qui est le chien de Godard, Roxy. Bah,
j'ai pas vu le film, c'est le seul que j'ai pas vu. Il est comment ce chien ?
Il est... j'aimerais bien le savoir, parce que je l'ai vu à l'écran, mais... Il est, c'est un petit chien noir avec un museau pointu.
Tout ça. Voilà. C'est vraiment très sympathique.
Enfin, c'est pas vraiment un petit.
C'est pas un petit chien, mais non, c'est pas un berger allemand, quoi.
Ouais. Oui, non, ça.
C'est pas un chihuahua non plus, hein, mais.
Non, je... c'est un... Pardon de vous avoir interrompu.
Non, je vous en prie. Mais non, j'ai jamais rencontré ce chien. Et effectivement, apparemment, ce serait le retour de Godard au cinéma de fiction. Parce qu'il, enfin, au cinéma de récit, en tout cas, un récit d'un couple, une histoire qui aurait un début, un milieu, une fin, ce que je ne vois pas forcément. Enfin, moi, je me suis raconté mon histoire en voyant le film, après avoir eu le scénario et avoir travaillé sur le tournage. Pour moi, ça raconte quelque chose. C'est un récit, effectivement. Qui a un début, un milieu, une fin.
Enfin, vous savez, vous connaissez la fameuse conversation entre Clouzot et Godard au Festival de Cannes, je crois, quelques années après le début de la Nouvelle Vague, où Clouzot disait, mais enfin, un film doit avoir un début, un milieu, une fin, et Godard disait, oui, mais pas automatiquement dans cet ordre. Oui. Donc c'est un peu peut-être la définition d'adieu au langage.
Ah oui, sûrement, oui.
Comment vous avez réagi à ce... Parce que c'est un film qui doit être extrêmement différent de l'expérience du tournage, quand vous avez vu le film terminé.
Oui, mais il est extrêmement fidèle au scénario. En fait, on a eu un scénario assez tôt dans le travail, qui contenait une page de texte et une page d'image. Il avait déjà en tête exactement tout le déroulé du film. Et la page de droite était faite d'images, et on peut les retrouver quasiment... les unes après les autres, exactement dans les mêmes, par rapport à ce qu'il a imaginé et ce qu'il a filmé. Donc c'était une surprise, le rythme et l'envolée, enfin je sais, le son, c'était plus une surprise là-dessus, mais pour l'esthétique, enfin l'image pas, et le récit, pas du tout. Finalement, j'avais tout entre les mains depuis le début, même si je me suis posé énormément de questions pendant le tournage, j'aurais dû faire confiance à ce qu'il m'avait donné comme dictionnaire, quoi.
Olivier Séguré, vous disiez donc qu'un tournage n'apprenait pas grand-chose sur un film, mais néanmoins, comment vous ressentiez, vous êtes allé sur plusieurs tournages, comment vous ressentiez cette atmosphère? Est-ce qu'elle a évolué au fil des ans? Est-ce que vous avez vu des changements chez Godard, réalisateur?
Non, c'est vraiment le premier tournage que je fais de lui. Je l'ai rencontré parfois en marge de certains tournages, etc. Mais jamais j'avais pu assister, comme cette fois-là, à un tournage. Sincèrement, moi, enfin, comment dire, ma première impression a été quand même de me trouver dans un monde très proche de ce que on peut imaginer, dans un dispositif extrêmement simple, de plein pied. Et c'est plutôt par comparaison avec les autres tournages, enfin, puisque j'ai assisté un peu à toutes sortes de tournages, enfin, le contraste est très frappant, quoi. C'était sur l'espèce de légèreté, de tournage, j'ai envie de dire al fresco, quoi, sans pédanterie, mais le côté vraiment sur le vif, quoi, enfin, capable de démarrer une scène avec une, enfin, moi, c'est, voilà, il y a une espèce de souplesse dans tous les processus de production et de réalisation que j'ai jamais vu ailleurs, oui. Finalement, c'est-à-dire que comme il y avait très peu de monde, lui-même, disons, Godard, et deux techniciens, et deux acteurs, j'ai ressenti une manière de procéder très très neuve pour moi, même si effectivement j'aurais pu l'anticiper, enfin je veux dire le contexte est, enfin, bon, c'est à peu près comme on l'imagine, mais il y a une manière de faire qui m'a un peu sidéré dans la simplicité, quoi, voilà, dans la rapidité aussi avec laquelle il passe d'une chose à l'autre, et voilà.
Et puis dans la modestie
des moyens. Vous êtes très très convaincant, parce que j'ai pas vu ce film, puisque j'étais dans un moment de telle panne sur mon livre, que je me suis dit, bon, ça va tout m'embrouiller. Oui. Mais vous êtes très convaincant, je vais le voir très vite.
Oui. Mais Andrzej Zemski, vous, vos souvenirs, Zoé Bruno a parlé de très peu d'indications. Quand vous avez tourné le premier film avec lui, qui est La Chinoise, et les films ultérieurs, est-ce que c'était déjà quelqu'un qui donnait très peu d'indications ou est-ce que vous...
Zéro éducation... explication psychologique, ça c'est sûr. Et par contre, comme vous disiez, Zoé, tout à fait, et vous aussi, très indication, mais très technique. En ça, il était très proche de Bresson. Et la chinoise, il y avait, soit parce qu'on était à côté de la plaque, soit je ne sais pas, mais il y avait beaucoup, beaucoup de prises.
Mais moi, j'ai trouvé ça passionnant comme façon de travailler, justement, de n'avoir aucune indication psychologique sur les personnages. Il nous a dit, ça, c'est votre boulot, c'est à vous de trouver la psychologie du personnage. Ça, moi, Et ce travail technique de savoir à quel rythme on va parler, quelle voix on va employer, quel temps on va prendre entre deux mots et comment on va positionner sa main sur cette table et comment on va attraper cet objet et tout ça, à quel point ça nourrissait justement en tant qu'actrice émotionnellement et comment il arrivait finalement à obtenir quelque chose. Par exemple, dans une scène, il ne l'aurait jamais dit, elle est en colère et elle va finir par pleurer, mais sa façon d'indiquer comment dire les choses et comment se comporter corporellement et quel rythme adopter va finir par faire surgir une colère et des larmes, par exemple. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Plutôt que d'indiquer le résultat à obtenir, de montrer le chemin pour y accéder, j'ai trouvé ça super, quoi.
Ce que j'ai trouvé très émouvant dans le livre de Zoé, c'est aussi comment elle raconte la modestie des moyens qui sont mis en œuvre dans ce film. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de costumière, il n'y a pas de maquilleuse. Je veux dire, elle prend ses affaires dans sa valise. Il faut qu'elle pense à prendre un échantillon de vêtements différents selon les scènes qu'elle imagine, etc. Et je trouve c'est vraiment bouleversant d'imaginer un artiste de cet âge-là au bout de sa carrière comme ça qui revient vraiment à la chose la plus... à une sorte d'épure où, justement, l'équipe n'est pas grossie par tous ces préoccupations d'image comme on les entend aujourd'hui.
Mais ce qui est très frappant, d'ailleurs, c'est le rapprochement qu'on peut faire entre Kubrick et Godard. Enfin, c'est un peu la bête noire de Godard, Kubrick. Il l'a poursuivi dès Les Sentiers de la Gloire jusqu'à Full Metal Jacket en le critiquant. En fait, l'un avec des moyens considérables et l'autre avec très peu de moyens, se sont donné la liberté totale de tournage. C'est-à-dire Kubrick a tourné pendant un an, Godard pendant deux ans, avec des équipes réduites, peut-être pas 10 personnes dans le cas de Kubrick, mais très peu, beaucoup moins qu'on ne croit. Pour garder cette sorte de liberté. Mais alors, Chantal Petit, je voudrais revenir tout de même sur votre roman, parce que il y a tout de même une sorte d'éclipse de Godard. Ça ne dément pas le titre, parce que ça reste le fil conducteur. Mais dans la deuxième partie, qui concerne vraiment une trentaine d'années, alors que la première, c'est 10 ans, on voit Godard un peu s'éloigner dans la présence, dans la vie de vos héroïnes. Et c'est intéressant parce que ça reflète ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si Godard dit à Séguret « je veux pas être un mythe », etc., il faut démythifier, c'est tout de même un mythe, Godard. C'est-à-dire que c'est un homme dont la personnalité déborde...
Juste une précision, c'est pas du tout lui hein, qui me dit, c'est moi qui dis...
voilà, c'est vous, pardon, vous êtes tellement identifié avec votre...
Il faut surtout pas le prendre sur le terrain du mythe, parce que ça, il fuit tout de suite,
voilà,
il
le fuit. Mais il n'empêche que... Je regardais récemment l'Association des critiques américains, qui regroupe 70 critiques, mais qui sont vraiment le top du top. C'est-à-dire qu'ils n'admettent pas n'importe qui. Vraiment, ils prennent les meilleurs de Time. Ils ont déclaré que dans le monde entier, de tous les films qui ont été produits l'an dernier, le plus grand film, de loin, c'était Adieu au langage. Oui. Or, le film, on le sait, sort à peine aux États-Unis, il sera à peine vu. En France, malgré le prix à Cannes, la presse, des articles, etc., cette émission, il a eu 20 000 spectateurs, ce qui est infiniment moins que les vrais succès qu'a eu Godard dans les années... Donc, il y a une personnalité qui déborde les films eux-mêmes. Et est-ce que ça ne produit pas chez Godard même un certain sentiment de, pas d'amertume, mais de déception, parce que Godard critique qu'on a tous lu, c'était un homme qui aimait les films populaires. Il aimait Fritz Lang, il aimait Nicolas Ray, il aimait Anthony Mann, il aimait les films qui avaient, ouais, qui avaient un grand public.
Il aimait Louis de Funès, hein.
Il aimait De Funès, oui. Il aimait Darry Cole, beaucoup Darry Cole. Voilà. Et donc, son élan n'était pas du tout du côté de Andy Warhol ou de Marco Poulos ou de l'underground américain. Il aimait le cinéma en salle. Et de ne plus voir de spectateurs, pratiquement, malgré... Il ne peut pas se plaindre de la presse, il ne peut pas se plaindre des festivals, il ne peut pas se plaindre de la critique. Malgré tout, il y a un mur du son qu'il n'arrive pas à franchir. Donc, comment il ressent cela, Olivier Séguré, vous qui avez peut-être parlé avec lui.
Oui, enfin, disons, moi, je veux surtout pas parler en son nom, enfin, m'exprimer, enfin, le faire s'exprimer à travers ma bouche. Mais moi, ce que je pense, enfin, vraiment, c'est que c'est plus du tout son souci. Et je pense qu'il a beaucoup d'avance. Il a pris beaucoup d'avance. Il y a déjà un bon moment là-dessus, et que c'est des logiques qui ne le percutent plus. Enfin, qui ne l'influent plus. Je pense sincèrement ça, que c'est plus son souci de savoir combien d'entrées fait un film, etc. Et que il le professe depuis quand même pas mal de temps. Disons, c'est comme ça qu'il a encouragé un maximum de gens, même si ça n'a pas beaucoup fonctionné, à faire des films, quoi qu'il arrive, quels que soient les moyens, etc. Ça, je pense qu'il a anticipé bien plus que la plupart des autres cinéastes, enfin voilà, que ça avait basculé, que la salle, bon, bah, on pouvait pas compter dessus systématiquement, que faire du cinéma et faire des films, ça consistait aussi en autre chose, enfin voilà. Et pour revenir sur son élection par la crème de la critique américaine, c'est vrai que moi aussi ça m'a beaucoup frappé, ça m'a fait un grand plaisir, mais pour revenir un peu sur tout ce qu'on disait, après avoir dit que tout ça est fait avec trois bouts de ficelle, etc., enfin disons que très peu de moyens et très peu de gens et tout ça, il y a quand même un truc, et c'est pour ça que je dis on n'apprend rien sur un film, enfin on n'a aucune idée d'un film quand on va sur son tournage. Moi quand j'ai découvert Radio au langage, mais j'ai été ébloui, je parle... vraiment là, plastiquement, il y a une somptuosité de l'image à chaque seconde, du son, de, voilà, que évidemment on peut pas du tout anticiper quand on est sur le tournage, mais que les cinéastes américains, à leurs milliers de kilomètres, que les critiques américains évidemment voient tout de suite, parce que ça, le contraste est tellement énorme avec tout ce qui se produit par ailleurs, bon, même si, voilà.
Yann Jasinowski, ce qui est aussi très passionnant dans votre récit, je préfère un roman, dans votre récit, ce qui est passionnant, c'est aussi le voir Godard en société, certes une société réduite, mais l'amitié avec Michel Rozier, l'amitié avec Michel Cournot, avec Gilles Deleuze, toutes ces gens qui vous retrouvez au Balzar, vous retrouvez donc... Et d'ailleurs, même Godard, je ne sais plus où je l'ai lu dans un de vos livres, en tout cas, je ne sais plus lequel, que Godard, finalement, a besoin toujours d'un binôme. Il y a eu Carina, il y a eu Jean-Pierre Gorin, il y a eu Anne Wiazemski, il y a eu Anne-Marie Miéville maintenant. C'est-à-dire qu'il fonctionne aussi, il a besoin d'être en couple avec quelqu'un, quelque chose d'équilibre qu'il retrouve. Et on voit un autre Godard que celui... Qu'on imagine en ermite, un peu misanthrope, ce qu'il est devenu. Mais il n'était pas du tout comme ça à votre époque.
Oui, c'est absolument ça, c'est binôme. Je ne nous mets pas tous au même niveau, mais ça a été en tout cas ce que j'ai vu, la recherche d'un groupe qui très vite s'est transformé en binôme, qui était ça... essentiel pour lui. Alors, effectivement, c'est passé par des hommes qui ont été, avec qui il a travaillé et signé des films, et avant, c'était une femme. Anna Karina, moi...
Il n'y a que deux.
Oui, on peut même parler de Beauregard aussi, dans les premières périodes, qui était un peu très très important
Georges
pour lui.
Georges de Beauregard, le producteur. Oui. Et Truffaut, au Cahier du cinéma, la grande amitié, bon, qui a mal tourné, mais...
Non, juste pour Olivier l'anecdote, Séguret. Juste pour l'anecdote, je ne sais pas si c'est le même apostrophe, donc celui auquel vous participiez en même temps que lui, mais moi j'ai le souvenir de Godard... sur le plateau de Bernard Pivot, expliquant, le cinéma, ça se fait à deux. Regardez les Frères Lumière.
Chantal Pelletier.
Oui, en fait, dans le roman, je reviens sur cette idée de One plus One de Godard, mais de tout artiste, finalement, parce que, je ne sais pas, un artiste a besoin d'un galeriste. Enfin bon, bref, je crois que le couple, c'est toujours l'élément moteur dont l'artiste a besoin, et Godard particulièrement, bien sûr. À part ça, je ne suis pas tout à fait d'accord que mes héroïnes... ne suivent plus Godard. Évidemment, il n'y a plus le foisonnement des années 60, mais il faut voir combien de films il a tourné entre 1960 et 1960.
Et les films ayant moins de spectateurs, c'est normal que statistiquement, vos héroïnes parlent moins des films de Godard.
Surtout, il y a beaucoup moins de films. C'est-à-dire, au lieu d'avoir trois films par an, il y a un film tous les deux ou trois ans. Donc, ce n'est plus le même accompagnement. C'est autre chose. Et puis, les personnages n'en sont plus à se constituer, à en être aux fondations. Le temps passe très vite, donc c'est un autre rapport, mais c'est un rapport toujours très très important.
Alors le cigare, parce qu'on n'a tout de même pas parlé du cigare, qui est un élément important, les odeurs de cigare, la présence du cigare. Il fumait déjà beaucoup le cigare, Andrzejewski ?
Non, pas du tout.
Pas du tout, oui. Je ne me rappelle pas de cigare dans votre livre, oui.
Non.
Parce qu'il fumait des cigarettes à l'époque.
Des Boyard Maïs, pardon.
Des Boyard Maïs, oui. Les Boyard Maïs, on est passé au cigare cubain. Ils ont passé de Moscou à la Havane.
Tant mieux d'ailleurs, parce que j'aime pas du tout ça, quoi. Quelqu'un qui me colle son cigare sous le nez.
Et les Boyard Maïs, c'était pas désagréable ?
Non, et puis c'était une époque absolument très différente de la nôtre. Tout le monde fumait comme des pompiers. Hein.
Olivier Séguret, ce cigare, quoi, c'est Godard producteur ? Il a appris ça des producteurs, à fumer des gros cigares ?
Ça, franchement, j'ai pas de réponse à ça, je sais pas. J'ai juste, moi, la petite phrase que je rapporte dans le livre, où à un moment il s'interroge sur... il faudra quand même que je demande à Wild Bunch combien je leur coûte chaque mois en cigare.
Et Zoé Bruno fumait-il le cigare pendant le tournage ?
Ah, en permanence.
En permanence.
En permanence. Mais à tel point que moi, c'est devenu l'odeur du cigare. Et j'ai l'impression de rentrer à la maison, retourner chez lui, rentrer dans la maison de ce couple que j'ai interprété.
Il en fume pour 150 francs suisses chaque jour, donc c'est quand même pas mal.
On ne parle pas de cigares dans le livre de Chantal Pelletier. Bah,
c'est-à-dire que dans mon roman, la personne de Jean-Luc Godard ou le personnage de Jean-Luc Godard n'existe pas. Il n'existe que par son cinéma.
Ce qui est bien dans votre livre aussi, enfin ce qui est original, c'est qu'il y a beaucoup de phrases tirées des films de Godard qui sont en italique et qui scandent le récit. Oui, et d'autre part, vous montrez très bien aussi le lien étroit entre Godard et son époque. C'est-à-dire que c'est tout de même un grand sismographe de ce qui se passe... Ah oui.
Et puis toujours avec un esprit qui est extraordinaire, qui nous sort de toutes les langues de bois, etc. Quand il dit, si chaque fois qu'on employait le mot « donc », on donnait un peu d'argent aux Grecs, ils ne seraient plus endettés par rapport aux Allemands, enfin, etc. Et puis bon, il y a l'histoire du Costa Concordia, de film socialisme, qui est quand même aussi un film somptueux, où on voit cette Europe qui navigue, là... avec sa surconsommation, cette espèce de monde obèse comme ça, et puis ce bateau, deux ans plus tard, qui s'échoue lamentablement sur un demi-rocher d'une façon complètement ridicule. On se dit, il l'avait vu. Enfin, il a quand même une ouverture au monde et un regard d'une vivacité sur le monde qui est impressionnante.
Merci beaucoup. Je vous remercie en particulier que pour un agnostic comme moi en matière godardienne, j'ai pu parler avec quatre croyants, à des degrés divers, mais entre quatre adorateurs. Donc, évidemment, je recommande la lecture de ces quatre ouvrages qui, de façon kaléidoscopique, rendent très bien compte d'un personnage complexe, à la fois irritant et touchant. Donc, Zoé Bruno, En attendant Godard, chapitre 1, chapitre 2, comme la vie d'Adèle, chez Maurice Nadeau, Chantal Pelletier et elle croyait en Jean-Luc Godard aux éditions Joël Losfeld, d'Anne Wiesemski un an après chez Gallimard et de Olivier Séguret, Godard vif à partir du 8 avril chez G3J éditeur.